votre permission, on va commencer. Ça va faire venir les absents, celles et ceux qui tournent dans les rues de Poitiers à la recherche d'une place. Parce que c'est un des problèmes de ce bâtiment, mais il est ancestral, pas le problème, le bâtiment. Puisqu'il y a très peu de places de parking autour de l'espace Fondes France. Donc ceci ne nous empêche pas de commencer et de nous réunir ce soir autour de Jean-Claude Dupont. Après une journée complète sur les questions de médicaments, souvent on a l'habitude de dire dans la vulgarisation des sciences, un objet scientifique, comment ça marche, à quoi ça sert, quels sont les problèmes, etc. Donc une journée passionnante aujourd'hui où on est passé de la fabrication du médicament aux questions de société. On a abordé, je crois que Jean-Claude va aussi l'aborder ce soir indirectement, les questions de chamanisme, les questions de substances naturelles, bref. Voilà, donc une journée qui nous a permis de faire le tour des choses. Donc ces quatre jours consacrés aux médicaments, pour nous, c'est une façon de mettre le sujet en exergue auprès de nos concitoyens. On fait autour du médicament un peu la même chose que ce que l'on a fait sur plein d'autres thèmes depuis 15 ans. Force est de constater qu'on parle du médicament depuis quelques années autour de grands problèmes, de problèmes de santé publique. On ne parle jamais des progrès ou pas assez. On ne rappelle pas assez quelles sont les avancées et les progrès qui, depuis un siècle, ont eu lieu dans ce secteur. En même temps, on essaie de mettre sur la table un certain nombre de questions qui sont posées, peut-être 25 ou 30 ans après, parce que je pense que l'environnement social n'est pas le même. Donc ces journées, on les a montées pour tous les publics, les connaisseurs, les moins connaisseurs, les petits, les grands. Samedi après-midi, on aura des ateliers autour des médicaments. Et on l'a fait avec l'aide d'un certain nombre de partenaires. Donc vous savez qu'on travaille depuis très longtemps avec le CHU de Poitiers dans le cadre d'un pôle InfoSanté, avec le Biopôle de Poitiers. Jean-Claude Lecron nous a rejoints depuis déjà plusieurs mois pour essayer de bâtir un certain nombre de contenus, avec l'association ASPES qui, déjà depuis de nombreuses années ici, essaie année après année de faire ce travail qu'on appellera de bénédictin dans une maison laïque, il n'y a pas de souci, ce travail progressif et qui fait entrer finalement ces questions de médicaments dans le champ social, parce que je pense que c'est important, les questions économiques, etc. Puis remercie aussi Daniel Chevalier qui va intervenir aussi à l'Espace Pendès France bientôt sur un atelier avec l'ARS, de nous avoir soutenus, d'avoir contribué à bâtir des contenus. Bonjour. Donc ce soir, l'idée était aussi de pouvoir mobiliser une réflexion sur une question que les scientifiques dénomment avec un gros mot épistémologique. Et finalement, quand on parle d'histoire de la pensée et de l'histoire des sciences, on se rend compte que ça nous permet d'un peu mieux appréhender les choses. Alors notre intervenant ce soir, Jean-Claude Dupont, il est comme on les aime. Il part des sciences et il arrive vers la philosophie et l'histoire des sciences. C'est un parcours atypique, on va dire, parce que la pharmacie et la philosophie ne faisaient pas forcément bon ménage il y a quelques décennies. Mais finalement, grâce à des pionniers comme lui, il y a des liens qui se font et qui finalement permettent, puisque ce matin il en a été question, de lier la question des substances avec la question de la culture. Hein, on a parlé de chamanisme à un moment, donc... pour montrer qu'effectivement, la question de la maladie, du médicament, de son traitement est ancestrale. Donc voilà, donc Jean-Claude, ce soir, va nous aider à réfléchir à tous ces éléments pour venir compléter l'aspect de vulgarisation scientifique auquel nous sommes très attachés dans la maison. Son intervention va être enregistrée. Le site internet de l'Espace Pendès France est de plus en plus, on dit en français, podcasté. En d'autres termes, de plus en plus de gens viennent cliquer sur les conférences que l'on met en ligne systématiquement. C'est pas loin de 20 000 personnes par mois maintenant. Et donc, c'est pour nous une façon de mettre en diffusion des interventions de personnalité, des interventions un peu hors normes. Et donc, cette soirée va tout autant servir à un débat entre nous, Poitevin, qu'à un moment ou à un autre, permettre de contribuer à doper, si j'ose dire, dans cette discussion, la réflexion des gens qui, sur le réseau, sont à la recherche d'une meilleure compréhension. Donc, Jean-Claude Dupont, merci d'être là. C'est la deuxième fois en peu de temps, finalement. La dernière fois, c'était sur le cerveau. Donc, une petite histoire des théories du remède. C'est vrai, le remède, finalement, c'est comme la réclame ou la publicité. C'est des mots qu'on employait. Donc, hein, pourquoi pas médicaments plutôt, et plutôt remède, alors
Merci d'être là.
Merci beaucoup. Alors, merci à tous les organisateurs donc, de m'avoir invité. Alors, ce que je vous propose, c'est non pas une histoire des substances, parce que ce serait très long et très fastidieux et très très long et très fastidieux, mais plutôt une histoire des théories du remède, une histoire, si on préfère, de la compréhension du mode d'action des médicaments, la compréhension théorique du mode d'action des médicaments. Alors, du plus étrange et du plus ancien, qui est peut-être le remède chamanique, jusqu'au plus récent, qui est l'approche moléculaire, l'approche par cible. Alors, évidemment, c'est forcément assez panoramique, donc je vais essayer de vous présenter une espèce de panorama un peu synthétique et un peu rapide de l'évolution des théories du remède. Puis si, sans évidemment prétendre à une exhaustivité, sans que l'exhaustivité soit possible dans ce domaine, parce que vous allez voir qu'il y a énormément de théories du remède, et que à chaque époque, et c'est un peu ce que je vais essayer de démontrer, il y a une logique qui est développée relativement à aux causes de la maladie et donc aux remèdes. Au fond, dès l'origine, cette rationalité, cette logique, on va dire, cette rationalité, c'est beaucoup dire, il y a des fondements empiriques, mais cette logique, elle est présente tout le temps. C'est un petit peu le message que je voudrais faire passer, c'est-à-dire que dès l'origine, il y a une logique. Et on change de logique au fur et à mesure que... comme des tableaux, si vous voulez, comme une série de tableaux, on change simplement de logique. Sur les pathologies, si on commence aux origines, et les remèdes des premiers hominidés, on a des indications paléopathologiques. On a des preuves avérées d'intervention chirurgicale, des trépanations, des traces de chirurgie dentaire. L'étude du tartre dentaire de l'homme de Néandertal montre que les Néandertaliens avaient ingéré des plantes, intégré des plantes à leur régime alimentaire et peut-être l'utilisation de plantes médicinales. Les données ne concernent pas que les squelettes. L'étude des coprolites humains et des villages lacustres permet d'envisager quelques éléments de la pharmacopée du néolithique. On a retrouvé des spores de fougères dont les racines possèdent des propriétés anti-helminthiques, donc vermifuges, en grande quantité dans les villages lacustres. On a retrouvé des baies anti-helminthiques, dont vermifuges, dans la besace de l'homme des glaces, le fameux Ötzi, qu'on a retrouvé, qui date de 3250 avant Jésus-Christ, ça a été daté. Sur l'origine du remède, pourtant, tout n'est qu'hypothèse. Et peut-être le remède est né de l'imitation des animaux, puisque les animaux se soignent, ne serait-ce que parce que le chien, le chat lèche ses blessures, etc. Bon. On peut postuler que dès le stade de la cueillette, il y a eu une distinction entre les plantes alimentaires, les plantes qui soignent et les plantes qui empoisonnent. Alors, pour approcher ce que pourrait être cette médecine préhistorique, il est tentant d'examiner ce que sont les médecines chamaniques d'aujourd'hui, avec évidemment beaucoup de prudence, parce qu'on n'est pas du tout sûr que la transposition médecine préhistorique, médecine chamanique d'aujourd'hui soit finalement pertinente. Néanmoins, ça a été fait. La fonction thérapeutique, c'est une des, dans ces ethnocultures, la fonction thérapeutique, c'est une des prérogatives du chaman. Alors, le mot chaman, c'est un nom tungus d'un personnage qui est appelé, qui signifie devin, guérisseur, magicien, sorcier. Le chamanisme, c'est le système de représentation et de pratiques qui sous-tend l'activité du chaman. Au milieu du XXe siècle, les ethnologues ont déjà décrit des sociétés chamaniques qui viennent de régions très éloignées, Arctique, Amazonie, Australie, Afrique, ce qui attesterait d'une certaine universalité du concept de chamanisme. Alors, il y a beaucoup de différences entre les chamanismes, mais le plus petit dénominateur commun, on va dire, de ces systèmes magiques, c'est que la nature est supposée régie par des âmes ou des esprits, donc c'est l'animisme, invisible. Et l'être humain engendre par ses actes dans le monde réel des troubles, des perturbations, qui provoquent dans un monde dans autre, donc, une réaction des esprits susceptible de provoquer à leur tour toute une série de désordres sociaux, climatiques, agraires, cynégétiques et également médicaux, donc les maladies. La fonction du chaman, c'est d'intervenir en tant que médiateur entre ces deux mondes, donc le monde d'ici et le monde autre, et aidé par des esprits et des plantes qui sont aussi médiatrices à la recherche d'une cause, d'une étiologie au mal, par exemple le vol d'une âme de la victime par un esprit malveillant, ou au contraire l'intrusion par un esprit mauvais dans un corps, la violation d'un tabou par la victime, des actes de sorcellerie qui seraient commis par un ennemi, etc. Donc, il y a un diagnostic que doit poser le chaman, entre guillemets, c'est-à-dire une identification de la cause exacte du mal, ce qui fait appel à des techniques diverses, la divination, l'interprétation des rêves, et ce contact avec l'invisible peut nécessiter la transe, qui est obtenue par divers moyens, le jeûne, la solitude et l'absorption de plantes psychoactives, et donc nous arrivons au remède. Alors le remède suit logiquement le diagnostic, et le remède est un exorcisme en fait, qui est obtenu par des moyens variés également, les prières, l'incantation, et ces moyens d'ailleurs auxquels participe parfois la tribu tout entière, d'où les danses rituelles, etc. Alors, il y a fréquemment, dans le cas de la violation de tabous, des rites de purification du corps et de l'âme. Le chaman pratique la technique de l'extase thérapeutique. Il absorbe des plantes psychoactives qui provoquent des effets physiques de la transe, donc les effets physiques de la transe, assez spectaculaires, hein, au cours de séances de guérison. Et il absorbe également ces plantes psychoactives au cours de sa formation depuis l'enfance, puisque c'est une formation qui se fait de père en fils par l'oralité. Alors l'étude pharmacologique de ces breuvages chamaniques, qui provoquent donc des états modifiés de conscience, a été faite par les pharmacologues et à partir des années 50. Selon les régions, donc, ces breuvages contiennent, seuls ou en mélange, des champignons, des plantes riches en alcaloïdes psychodysleptiques, comme l'amanite, le chanvre indien, certaines lianes, le peyote, etc. En dehors de ces plantes sacrées, donc, que le chaman s'administre en principe de façon parfaitement maîtrisée, donc il y a un savoir-faire qui est lié à la préparation de ces breuvages, d'autres plantes médicinales sont administrées, alors cette fois-ci aux malades, de manière très pragmatique. Donc des plantes médicinales, en quelque sorte, plus traditionnelles. Et ces plantes, au fond, ont pénétré, en particulier les remèdes d'Extrême-Orient, d'Amérique précolombienne, d'Afrique, la médecine européenne à partir du XVIIe siècle, souvent, alors que les natifs avaient depuis longtemps identifié leurs propriétés curatives. Donc la pharmacie du chaman, c'est quelque chose qui existe, et elle a, dans ses destinées variées, disons, elle a participé aussi à la naissance de la pharmacopée occidentale. Alors, donc, on passe, ceci dit, on est dans des traditions qui sont des traditions orales. Donc après la révolution néolithique, plusieurs grandes civilisations se développent dans ce qu'on appelle le croissant fertile. premières villes, premiers États et les premiers écrits. Et parmi ces écrits se trouvent les premiers traités thérapeutiques. Alors la transmission du remède sous forme écrite, évidemment, rend moins fragile, sera moins fragile, la transmission est moins fragile, et elle ne dépend plus d'un seul individu initié et expérimenté. Et elle permettra de codifier donc l'expérience médicale et l'expérience thérapeutique. Alors, la plus ancienne pharmacopée qui est connue vient de Mésopotamie, donc c'est la fameuse tablette de Nippur, 2100 avant Jésus-Christ. C'est une date qui est une plaquette d'argile, et il s'agit d'un recueil de préparations, en fait une dizaine de préparations, une douzaine, à partir d'éléments minéraux, végétaux, animaux. Alors on a retrouvé de très nombreuses plaquettes, tablettes d'argile de ce type, gravées en écriture cunéiforme, qui ont permis de reconstituer les caractéristiques de la médecine de la Mésopotamie. Et celle-ci, évidemment, est incomparable d'un contexte magico-religieux. Donc il y a le panthéon mésopotamien comprend trois principaux dieux, plus quelques dieux et déesses qui exercent plus spécifiquement un rôle sur la santé, des dieux guérisseurs, des dieux des eaux, de la médecine, et des démons, et des démones, qui sont responsables de maladies spécifiques, la migraine, les fièvres, etc. La maladie est considérée comme une punition divine, résultant du non-respect d'un code moral par le patient lui-même ou alors un de ses ancêtres. Éventuellement, la maladie peut être liée à un spectre ou à un mort qui n'est pas apaisé. Cette imbrication de la maladie et de la faute, la maladie et du péché, va passer des Babyloniens au peuple de la Bible, dans une équation beaucoup plus simple, un seul péché originel, un seul Dieu, responsable de la maladie et de la guérison. Ça, c'est la version biblique de la maladie. Alors, les signes de la maladie sont interprétés avant tout comme des signes du désordre moral ou social, et des textes, puisque là, on est sur des périodes de temps très, très longues, en fait, les textes tardifs parlent aussi de causes plus naturelles, comme la morsure des bêtes, la poussière, la chaleur. Les remèdes qui sont décrits dans les différentes tablettes se répartissent en plusieurs types, donc végétaux, minéraux, animaux. Il y a déjà 250 espèces de plantes, hein, 120 minéraux, des produits animaux comme le lait, les extraits d'organes, enfin les organes plutôt desséchés. Les ingrédients sont parfois obscurs, ça crée beaucoup de problèmes de traduction comme vous imaginez. Certaines plantes médicinales pourraient avoir été obtenues par culture. Et pour la voie buccale, on mélange des drogues purifiées au miel, au lait, à la bière douce. Et à côté de ces préparations traditionnelles, il existe une pharmacopée excrémentielle, peu ragoûtante, constituée de substances amères, répugnantes, qui est destinée à incommoder les maladies démons, à les faire fuir, et qui peut-être aussi possède un caractère punitif, c'est-à-dire il s'agit aussi de punir le malade. Et d'une façon générale, donc, la médecine cunéiforme possède un caractère assez composite, à la fois empreinte d'empirisme technique et de pratique magique. Et il est impossible de dire si elle a évolué du 3e millénaire au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, mais elle semble vouloir se définir comme une pratique qui se dégage peu à peu de la magie, pour constituer une sorte de savoir technique, indépendamment, enfin encore non soutenu, savoir purement technique, encore non soutenu par une théorie médicale qui serait naturaliste, qu'on va voir ce qui va être la caractéristique, par exemple, de la médecine grecque. La Mésopotamie est de toute façon très éloignée de l'image, ce sont les spécialistes, hein, grâce aux travaux des spécialistes, qui a été longtemps la sienne, c'est-à-dire un monde exclusivement magique, peuplé de divinités en colère, etc. Alors, ces caractéristiques vont se retrouver dans la médecine égyptienne, où je vais accélérer, avec peut-être une influence, sans doute une influence moins forte de la magie. Donc l'influence de la magie va se réduire, en fait, au fur et à mesure qu'on va avancer dans, au cours de la Haute Antiquité, au cours de l'Antiquité. Alors là, médecine égyptienne nous est très bien connue par diverses sources, et notamment les papyrus médicaux. Et le plus fameux, le plus célèbre, c'est le papyrus Ebers, mais il y en a d'autres, hein, 1550 avant Jésus-Christ, qui contient plusieurs centaines de formules de préparation réparties en 875 paragraphes. Bref, les maladies sont décrites comme résultant de plusieurs causes naturelles. Des excès d'alimentation ou de boissons, des vents bons et mauvais, et des esprits, qu'ils appellent les oukédous, qui sont des puissances maléfiques, et ou des principes morbides. C'est-à-dire que là, on a affaire à quelque chose qui est semi-magique, si vous voulez. À la fois des souffles, donc quelque chose de matériel, et quelque chose, enfin, j'allais dire, de spirituel, quelque chose de magique, donc. En tout cas, quelque chose qui possède une force négative, qui provoque une rupture d'harmonie entre l'homme et le cosmos, et la nature, qui fait que le corps humain sert de réceptacle à ces forces négatives et que l'individu attrape la maladie, est atteint de la maladie. Alors le médecin, à l'aide d'incantations, va essayer de rétablir un équilibre. Et le papyrus Ebers va renfermer certaines de ces incantations. Mais ce qui est caractéristique de la médecine égyptienne, c'est que le médecin, il y a bien sûr de la magie, mais il y a également, et il y a peu de perspectives punitives, il n'y a pas de pharmacie comme chez les Babyloniens excrémentielle, mais il y a de la technique. Et le médecin prépare les remèdes chez lui selon une procédure qui est détaillée. Alors, on a un exemple de remède. Alors, vous voyez, il y a de nombreux problèmes de traduction, hein. Et on ne sait pas exactement, forcément, à quoi correspondent les plantes qui sont nommées. Enfin, c'est tout un travail de spécialiste, d'orientaliste, pour savoir, par exemple, ce qu'est la plante jarret, la partie moût, etc. Donc, évidemment, il faut se référer au biotope méditerranéen, hein, de l'époque. Enfin, en tout cas, chez les médecins, il y a une officine avec toute une série d'instruments, des mortiers, des moulins, des fioles, on a retrouvé certains de ces objets, pour préparer les remèdes à partir de substances animales, des trois règnes, animaux, végétaux, minéraux, dont certains d'ailleurs sont très mal identifiés, comme je viens de le dire. Alors, pour les médecines, d'une façon générale, donc du croissant fertile, c'est-à-dire les médecines archaïques d'Égypte, la Mésopotamie, sont en résumé, fondamentalement magiques, mais elles acquièrent des caractéristiques qui les éloignent des médecines primitives, des médecines chamaniques. Alors, ces caractéristiques sont de nouvelles méthodes, par exemple des méthodes chirurgicales, de nouveaux remèdes, donc il y a une pharmacopée qui est déjà riche, une réglementation de la profession médicale, donc il y a une éducation médicale, qui se fait dans certains lieux avec des règles. Chez les Égyptiens, par exemple, des sanctions qui sont destinées aux médecins qui ne respectent pas les règles de l'art. Et il y a surtout une nouvelle mentalité qui apparaît avec ces médecines archaïques, en particulier la médecine égyptienne, qui est le refus du recours systématique à la magie. Et ça, c'est caractéristique de la mentalité rationnelle naissante, c'est-à-dire que, par exemple, dans les papyrus, dans le papyrus Ebers, les symptômes sont décrits, et à la fin, il y a une indication, puisque ce sont des papyrus qui sont destinés, en fait, à l'enseignement, et il y a une indication, tu soigneras ou tu ne soigneras pas. Il y a une indication qui est donnée au postulant médecin. Tu ne soigneras pas, ça veut dire il y a des maladies incurables. Et ça sous-entend, si vous voulez, il n'est pas pertinent, il n'est pas utile, il est inutile d'avoir recours à la magie. Ces maladies sont naturellement incurables. Et ça, c'est le signe d'une rationalité naissante, Donc cette reconnaissance de la limite du remède, de la limite finalement de l'action du médecin. Alors là, initialement, la médecine grecque est également tout empreinte de religiosité, dans la médecine grecque archaïque. Il faut savoir que dans la plupart des cultures, le monde originel est exempt de maladies et des maux qui affectent l'humanité. Donc le monde originel est souvent parfait, exempt de maladies. Et la maladie est une œuvre des dieux, soit parce que les dieux sont capricieux, soit la maladie est le résultat d'une faute ou d'une offense. Et là, il y a quelque chose d'anthropologiquement très, très fort. Et la mythologie décrite dans les poèmes d'Homère, d'Hésiode, ne fait pas exception. Les dieux ont joué un rôle dans la survenue des maladies et donc possèdent les secrets de la guérison également. Apollon peut provoquer des maladies et connaît l'art de chasser les maux. Au temple qui lui est dédié à Delphes, les prêtres médecins organisent des consultations, recueillent les révélations divines reçues par les Pythies. Et à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, des dizaines de temples dédiés à son fils, le fils d'Apollon, le nouveau dieu guérisseur Asclépios, sont aussi gérés par les prêtres, les Asclépiades, donc descendants des enfants d'Asclépios. Les remèdes qui sont prescrits dans les consultations sont des purifications qui sont obtenues par différents moyens, le jeûne, l'abstinence. Et la Grèce archaïque, ça c'est intéressant dans l'histoire du remède, pratique aussi un rite spécifique, un rite spécial de purification qu'on appelle le rite du pharmakos, qui consiste à expulser de la ville, donc à flageller avec des plantes purgatives, parfois même à sacrifier une personne qui concentre le mal en elle, selon le principe du bouc émissaire. L'Iliade, par ailleurs, nous apprend que les hommes disposaient de connaissances anatomiques pour se soigner entre eux leurs blessures. Et donc, finalement, le pharmakon, ce qui est le terme grec pour le médicament, le pharmakon est à la fois un poison et un remède. Et donc, à l'instar du pharmakos, donc, ce qui concentre le mal en lui. Et donc, et qui permet donc de l'expulser. Donc on expulse le mal en le concentrant sur une personne qu'on expulse de la cité. Donc il y a une ambiguïté, une ambivalence déjà dans le terme pharmakos entre qui est présente dès les origines. Le pharmakos, il est à la fois le médicament et le poison. Donc le mal et le remède. Et cette ambiguïté, finalement, du médicament, qui est à la fois un poison et un remède, bon, elle persiste jusqu'à aujourd'hui, donc elle est finalement inhérente à la définition même, à l'histoire même du médicament. Alors après, donc là, on va entrer dans quelque chose qui est plus familier, disons, qui est moins étrange, de la lignée des Asclépiades, donc des prêtres médecins, serait née la médecine d'observation. Et effectivement, au cours du 7e siècle, du 6e siècle, il y a une dissociation de la médecine et des pratiques magico-religieuses qui s'expriment chez les philosophes présocratiques, qui sont souvent des médecins, et dont le discours prône, alors, revendique une explication naturaliste, une naturalisation de la maladie. Et donc, la médecine suit un mouvement d'ensemble, en fait, vers la rationalité. La santé devient l'expression d'un ordre inhérent à la nature, et la maladie est simplement la perturbation de cet ordre inhérent à la nature. Donc, c'est le fonctionnement, à partir de là, normal et pathologique du corps humain, qu'il faut expliquer selon des principes naturels ou physiologiques, donc au sens étymologique de la physiologie, c'est-à-dire tout discours sur la physis, sur la nature. Donc on est là dans un monde qui est naturaliste, qui devient un monde naturaliste. Donc on oublie la magie, le chamanisme, etc. À la fin du 5e siècle, les écoles médicales grecques se développent sur ces fondements à Cnide, Crotone, Agrigente et surtout à Kos, où se développent donc les principes de la médecine hippocratique. Alors, pour aller vite, la théorie humorale, donc qui est la théorie des humeurs, considère que la santé est le résultat d'un équilibre ou un mélange harmonieux, la crase, de quatre humeurs. Donc, on a fait l'histoire aussi de cette théorie des humeurs. Elle n'est pas apparue comme ça brutalement. Donc, c'est un puzzle en fait qui s'est constitué. Bref, vous avez là le résultat de ce puzzle tel qu'il a été transmis, par exemple en Occident, dans la médecine médiévale. Donc, c'est souvent sous cette forme. Alors, en gros, vous avez des qualités physiques, donc vous voyez au centre, sec, froid, chaud, humide, qui sont associées deux à deux pour former quatre humeurs. Alors, vous avez les quatre humeurs, donc la bile noire, la bile jaune, le sang, le phlegme. Vous voyez, on va de l'intérieur vers l'extérieur. Eux-mêmes associés à quatre saisons, à quatre âges de la vie. Alors, ça, ce n'est pas indiqué. Donc, c'est un système d'association. L'ensemble constitue une sorte d'équilibre dynamique dont la rupture provoque la maladie, qu'on appelle la dyscrasie. Donc, effectivement, les humeurs, en gros, l'équilibre des humeurs est rompu et vous avez donc une maladie. Alors, une maladie liée à la bile jaune, à l'excès de bile jaune ou à la bile noire. Alors, toutes les maladies. Alors, vous pouvez avoir plusieurs humeurs qui sont en cause, etc. Donc, la pathologie est expliquée de cette manière. Et de plus, il faut voir que la théorie humorale permet d'expliquer la spécificité des cas. C'est-à-dire que nous avons, chaque individu possède un mélange d'humeurs qui lui est spécifique. Donc, ce qu'on appelle son tempérament. Donc, il y a des individus colériques, mélancoliques, flegmatiques, sanguins, et puis donc plus ou moins sanguins, plus ou moins, etc. Et ça s'explique par la composition spécifique de leur mélange, on va dire, humoral. Donc, il y a des individus qui sont prédestinés à avoir certaines maladies. Par exemple, les colériques auront plus de prédisposition, donc c'est la notion de terrain, la notion de tempérament, à avoir une maladie liée au feu. Ou lié à la bile jaune, si on préfère. Donc, il y a également, il suit de là, évidemment, une thérapeutique, c'est-à-dire selon un principe qui est le principe des contraires. C'est-à-dire qu'un remède, par exemple, pour soigner une maladie, par exemple, liée au feu, il faut utiliser un remède qui contient beaucoup d'eau. D'accord ? Donc, ça, c'est le principe des contraires qui a donné, en fait, qui est à la base de l'allopathie. Combattre, l'allopathie aujourd'hui, combattre le mal par son contraire. Ce qui s'oppose à un autre principe, qui est le principe des similitudes, qui est déjà exprimé chez Hippocrate, mais qui ne domine pas, c'est le principe des contraires. Donc, Hippocrate dit à un moment... Oui, il y aurait un autre principe possible. Donc, ce sont des philosophes. Hein, donc, il y aurait un autre principe possible, hein, logiquement. Il y a le principe des similitudes. Donc, on pourrait, dans certains cas, utiliser ce principe des similitudes. Et les homéopathes au XVIIIe siècle, donc les homéopathes modernes, vont se référer à Hippocrate pour trouver une légitimité, finalement, du passage de l'allopathie à l'homéopathie. Parce que c'est dans Hippocrate. Hippocrate qui va rester la figure, hein, de toute façon, sacrée, auquel la médecine va se référer, même au 19e encore, beaucoup plus que Galien, même à la limite. Donc il y a un prestige, hein, de la médecine hippocratique qui va imprégner totalement. Bien, donc, la médecine hippocratique n'est pas expectante, comme on a pu souvent le voir, c'est-à-dire que le médecin hippocratique n'attend pas que les choses se passent, il intervient. Il intervient, alors il croit au rétablissement naturel des humeurs. La natura medicatrix, la nature se soigne elle-même, mais il faut l'aider. Et il intervient en remédiant donc aux troubles de l'humeur. Il peut également, les médicaments qui sont utilisés sont destinés à évacuer les humeurs, par exemple des laxatifs, des diurétiques, des expectorants, et ils sont choisis pour leurs propriétés contraires à celles de l'humeur en excès, en vertu du principe donc des contraires. Alors, les remèdes préconisés par la médecine hippocratique sont simples. Ce sont pas des, je veux dire par là, ce sont pas des remèdes qui sont composés de plusieurs remèdes. Donc une plante. Ce sont pas des mélanges de plantes. Alors tout au long de l'Antiquité, on va voir que les choses vont varier rapidement, ce qui va donner l'art pharmaceutique en fait, l'art de mélanger, combiner les plantes, c'est ça. Alors toute l'Antiquité, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a une multitude de théories du pharmacon, du théorie du médicament qui sont développées dans l'Antiquité, qui sont plus ou moins compatibles avec les théories des humeurs. Donc il faut savoir qu'à chaque fois, alors je vais vous donner juste celle d'Aristote. Bon, la première, Aristote analyse l'action des médicaments, hein, comme Aristote, de toute façon, analyse à peu près tout. Et donc, il explique que le pharmacon n'est pas assimilé ou digéré par l'organisme. Donc, c'est la différence entre le médicament et un aliment. Et donc, il subsiste, si vous voulez. Et donc, il est capable de pousser la matière pathogène. Il faut savoir que dans la médecine hippocratique, lorsqu'il y a un déséquilibre des humeurs, il y a une matière pathogène qui se forme, matière dite pécante, et qui se localise dans certaines zones du corps, ce qui provoque différentes maladies. Et là, Aristote explique que le pharmacon peut pousser cette matière pathogène à l'extérieur, donc créer un mouvement, en quelque sorte, qui permet donc d'expliquer son action, qui permet d'expliquer notamment l'évacuation de cette matière pathogène. Alors pour aller rapidement. Donc l'action, elle est comprise comme une action presque mécanique, si vous voulez. Alors il y a une autre notion importante qui est la notion de dynamis. C'est-à-dire, alors ça c'est une notion qui va être un petit peu développée par la dynamis du pharmacon, par Aristote, puis par les penseurs comme Dioclès, qui va être reprise par Dioscoride et Galien. Dioscoride et Galien qui sont les deux figures tutélaires, hein, de la médecine, de la pharmacie antique. La dynamis, c'est une sorte de force propre que possède le remède. Une faculté. Alors, elle est née de l'idée que elle est liée à l'idée du poison. C'est-à-dire que Dioclès va composer un manuel qui s'intéresse à la toxicologie des venins. Et il remarque qu'une petite dose de venin peut avoir un grand effet et conduire à la mort. Donc, le syllogisme du sens commun, si vous voulez, grande cause, grands effets, n'est pas valable dans le domaine du médicament. Et il faut sortir donc de l'explication aristotélicienne du mouvement. Parce qu'il faut qu'il... Et donc, d'où cette notion de force propre. Donc le médicament possède une force propre qui n'est pas, pas simplement liée à une physique, si vous voulez, qui serait mécanique, à sa masse, par exemple. Il y a quelque chose qui dépasse, si vous voulez, une toxicité, qui dépasse la simple quantité, la simple notion de quantité. Alors, cette théorie de la dynamis du pharmaca, donc de l'action propre du médicament, elle va être reprise par à peu près tout le monde, Dioscoride, Galien, etc., et elle va en quelque sorte être transférée des venins aux pharmaca, aux médicaments, ce qui est naturel quand on connaît la dualité signification du pharmaca, à la fois poison et venin. Alors, Dioscoride, qui est l'auteur du traité De Materia Medica, hein, qui est le plus grand traité de pharmacologie qui nous a été légué dans l'Antiquité, plus de 500 plantes du bassin méditerranéen, avec leur traduction. Les plantes sont rangées par action thérapeutique et pas par ordre alphabétique. Ce n'est pas non plus un traité de botanique. Elles ne sont pas classées selon leur forme. Chaque médicament est décrit de façon à pouvoir le reconnaître sur le terrain. Dioscoride se réfère à la théorie de la dynamis, et en fait, les médicaments sont, sont regroupés selon leur dynamis, détaillés pour chaque pharmacone. En plus de la dynamis propre du pharmacone, il y a une hiérarchie des médicaments, des pharmacas, selon leur origine, c'est-à-dire selon l'ordre et l'histoire de la nature. Donc il y a une classification, si vous voulez, des médicaments qui suit la genèse du monde. La pharmacopée commence par les parfums qui sont chauds, aériens et qui sont la nourriture des dieux. Elle finit par les minéraux, suivant les étapes d'une cosmogonie qui commence par les dieux et qui finit par la terre, où sont les minéraux et les métaux lourds et froids. Donc, la théorie des pharmacas chez Dioscoride s'inclut, est intégrée dans une cosmogonie, dans un cadre, une représentation générale de l'univers. Chez Galien, on a également de nombreux ouvrages. On a de nombreux ouvrages consacrés aux médicaments. Galien, en gros, intègre la théorie de la dynamis des pharmacas, qu'il intègre à la théorie des quatre humeurs, qui est celle d'Hippocrate. En gros, les propriétés des médicaments, les dynamis, sont identifiées aux quatre qualités fondamentales, qui sont celles des humeurs. Et le principe des contraires est réutilisé. Il faut utiliser une drogue froide pour combattre les maladies chaudes, etc. Donc on est dans une perspective, disons, hippocratique, mais beaucoup plus complexe chez Galien. Vous savez que le terme de pharmacie galénique est encore utilisé aujourd'hui parce que Galien, dans ses traités, prône la polypharmacie, c'est-à-dire le mélange des plantes. Et les plantes étant censées se renforcer les unes les autres. Et donc, il va consacrer pas mal de ses écrits à la manière d'associer et de préparer les remèdes, d'où le nom de pharmacie galénique qui est demandé à la science, qui est donné à la science de préparation des remèdes chez les pharmaciens encore. Donc, en conclusion sur cette période antique, je vais aller plus vite après. Donc, je passe sur le degré des plantes. Il y a une notion de quantité. Il y a, si vous voulez, une thérapeutique dans l'Antiquité qui se rapproche déjà beaucoup plus de la rationalité, de la raison que des dieux, hein, ne serait-ce que par la médecine humorale. Donc il y a une représentation, une cohérence, si vous voulez, du remède par rapport à la cause de la maladie, qui est fondée notamment sur le principe des contraires. Et cette médecine va avoir, cette médecine grecque et romaine, hein, puisqu'en fait, les médecins grecs exercent à Rome à partir d'une certaine époque. La médecine grecque va avoir une fortune extraordinaire, donc elle va être reprise par les Arabes, par exemple. Là, j'accélère un peu, par exemple, alors les Arabes vont rectifier, hein, beaucoup des théories grecques. Par exemple, il y a dans le traité d'Avicenne, dans le canon d'Avicenne, des préconisations sur l'expérimentation des remèdes. Donc, au point qu'on a pu dire qu'Avicenne est le père de la pharmacologie expérimentale. Donc il y a des principes d'expérimentation des remèdes, mais le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que ces expériences aient réellement été réalisées. C'est-à-dire qu'il s'agit vraisemblablement de vœux pieux, si vous voulez. Les expériences n'ont pas été faites. Alors, on passe à la Renaissance. Il faudra attendre la Renaissance, en fait. Donc on va sauter un peu le Moyen-Âge parce qu'il y a peu d'apports théoriques finalement relativement à la théorie du remède. Il va falloir attendre la Renaissance. À la Renaissance, il y a essentiellement, alors il y a une efflorescence thérapeutique, c'est-à-dire qu'on imprime de très nombreux traités, les traités anciens, et puis il y a des traités thérapeutiques nouveaux qui ne sont plus de simples commentaires des auteurs anciens. Donc on sort, si vous voulez, dans certains de ces traités, du galénisme. Parce qu'au fond, c'est l'hypocratico-galénisme qui va dominer d'un point de vue théorique. Il y a des écrits qui sont atypiques. Alors, pourquoi il y a apparition de ces écrits atypiques ? Alors, il y a d'abord toute une littérature sur les nouveaux remèdes. Donc, les nouveaux remèdes qui sont liés à la découverte du nouveau monde et l'extension de la pharmacopée, donc des remèdes extrêmes orientaux, la découverte des Amériques, etc. Donc, il y a un élargissement, si vous voulez, de la pharmacopée. Et on n'arrive pas à expliquer l'action de ces nouveaux remèdes dans le cadre de la théorie humorale, dans le cadre du galénisme. Donc ça, c'est le premier facteur de renouveau. Le deuxième facteur de renouveau, c'est la littérature, toute une littérature chimique, ou plutôt, à l'époque, alchimique. Donc il y a de nouveaux remèdes chimiques. Et ça, c'est une nouveauté. Alors, les alchimistes, on ne va pas refaire ici l'histoire de l'alchimie, mais disons que la figure centrale de l'alchimie au Moyen-Âge, c'est Paracelse. Et Paracelse explique, contrairement, et il s'oppose en cela au galénisme, principe du galénisme, c'est-à-dire que, contrairement à ce que pense Galien, le remède doit être spécifique. Le remède doit être spécifique de la maladie. Une maladie, un remède. Et comme la maladie est liée, en gros, à un déséquilibre des éléments, des trois éléments alchimiques, eh bien, le remède peut être chimique et rétablir, en quelque sorte, cet équilibre. Là, on ne parle pas d'équilibre des humeurs, mais on parle d'équilibre des éléments, le soufre, le mercure, des éléments de l'alchimiste. Paracelse déconseille donc les mélanges complexes et il faut utiliser de l'acétate de plomb, du nitrate d'argent, du sulfate de potasse, évidemment, on n'appelle pas ça comme ça à l'époque. Et il se présente comme un réformateur qui rejette Hippocrate, qui rejette Galien, qui rejette Avicenne. Et on en a fait quelquefois un précurseur de la chimie thérapeutique ou de la pharmacologie. En fait, il faut voir que dans les conceptions de Paracelse sont encore très largement alchimiques et très largement magiques. Donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais il est clair que l'alchimie a été réévaluée par les historiens. Pendant longtemps, on a considéré seulement son irrationalité, si vous voulez. En réalité, elle a eu une influence considérable sur l'histoire de la chimie, sur l'histoire de la matière, du traitement de la matière, de la manipulation des dispositifs, par exemple, comme le bain-marie, l'alcool, des substances comme l'alcool, sont issues, en réalité, du travail des alchimistes. Ce qui est important, c'est qu'avec Paracelse, l'alchimie a un programme thérapeutique, un programme médical, il s'agit de fabriquer des remèdes. Donc on ne se contente plus d'aller cueillir des plantes, il faut fabriquer des remèdes. Et ça, c'est typique du chimisme. Alors évidemment, il va y avoir une polémique très forte entre les partisans du galénisme ancien et puis les partisans du chimisme nouveau. Mais grosso modo, l'issue... Je me laisse l'huile de petit chien. L'issue de cette polémique, c'est que le galénisme va perdre du terrain. Donc ça vous distrait, je ne vais pas le mettre, parce que c'est trop... C'est horrible. Bah oui. En gros, le galénisme va perdre du terrain. Et il va perdre du terrain parce que, pour deux raisons, l'inefficacité des remèdes, au fond, qui sont des mélanges de plantes, bon, Il faut quand même voir les choses en face. Donc, par exemple, la question par rapport aux épidémies, les épidémies qui sont la grande affaire du Moyen-Âge et de la fin de la Renaissance, les mélanges de plantes sont complètement inopérants. Alors, on a des parfums pour essayer d'éviter au maximum les effets de l'épidémie, mais au total, c'est tout à fait inefficace. Les remèdes chimiques, c'est une alternative, si vous voulez, possible. Par exemple, le fameux mercure pour la syphilis. Et il y a aussi le fait que les classifications deviennent extrêmement complexes. Donc, parce qu'au fond, on est on superpose en quelque sorte une espèce d'empilement de la classification galénique qui est au départ assez hippocratique, assez simple, les remèdes chauds, les remèdes froids, les remèdes secs. On va compliquer ces classifications, en gros, pour tenir compte de l'effet spécifique des médicaments sur les différents organes. Ce qui fait qu'on va arriver au siècle de Molière, au XVIIe, à des classifications. Là, vous avez l'exemple de celle de Lemery. Lemery, qui est un grand chimiste du XVIIe, une chimie pré-lavoisienne, mais quand même. C'est plus du tout de l'alchimie, Lemery. Donc, on a des remèdes, on a une classification, je vous mets là, qui est extrêmement complexe et qui reprend par certains côtés la classification galénique, mais qui la complexifie. De plus, chez Lemery, il y a persistance de remèdes, parce que les remèdes s'empilent. On assiste à une espèce d'empilement des remèdes, on ne jette rien. Donc les pharmacopées, si vous voulez, deviennent de plus en plus épaisses. Et des remèdes, par exemple, j'ai pris l'exemple là de l'huile de petit chien, qui est un remède apparemment dans le deuxième paragraphe fort bon pour fortifier les nerfs. C'est cité de la pharmacopée de Nicolas Lemery. Elle est fort bonne pour fortifier les nerfs, pour la sciatique, pour la paralysie, pour dissoudre et résoudre les catarrhes qui viennent de la pituite. Vous voyez encore ces références au galénisme, froide et visqueuse. On en frotte les épaules, l'épine du dos, etc., les autres parties malades. Donc on garde tout. Ce qui fait qu'à un moment, au XVIIIe siècle, j'en arrive donc au XVIIIe siècle, donc vous voyez, on va plus vite, au XVIIIe siècle, on assiste à la multiplication de théories anti-galéniques, si vous voulez. Bon, il y a les remèdes de la tradition humorale. La tradition humorale, c'est le galénisme, l'hippocratisme. Mais en dehors de ces remèdes, en dehors de cette manière d'expliquer l'action des médicaments, vont se multiplier. Chaque système, si vous voulez, les médecins vont essayer d'expliquer à leur manière, mais cette fois-ci en faisant référence aux sciences naturelles de l'époque, la chimie, la physique, l'action des médicaments. Alors, je vais vous donner juste l'exemple des chimiates, des iatrochimies. Les chimiates, ce sont les successeurs, si vous voulez, des alchimistes. La chimiatrie, c'est ce qu'il y a avant, c'est la chimie d'avant Lavoisier, si vous voulez. C'est entre l'alchimie et la chimie de Lavoisier, qui est la chimie moderne. Donc, entre les deux, il y a une zone qu'on appelle la chimiatrie. Van Helmont, par exemple, explique que les maladies sont des altérations chimiques et que par conséquent, donc je vais un peu plus vite, notamment grâce à son hypothèse des ferments, donc il y a une altération des ferments qu'on pourrait appeler les enzymes aujourd'hui, mais ce n'est pas exactement les ferments au sens d'enzymes. Mais disons que il y a un déséquilibre humoral qui est créé par une altération des ferments. Et les remèdes chimiques consistent donc à rétablir cet équilibre, mais cette fois-ci au niveau des ferments. Donc une autre théorie chimique, en quelque sorte, que celle de Paracels pour le remède. Il y a, par exemple, le remède des iatrophysiciens et des solidistes. Alors, les iatrophysiciens sont ceux qui pensent qu'on peut appliquer la physique pour l'étude du corps humain. Donc, toutes les maladies sont interprétées comme des perturbations physiques. Alors, ça marche très bien pour les fractures, par exemple, mais ça ne marche pas moins facilement pour les maladies de digestion, où là, par exemple, ce sont les chimiatres et les iatrochimistes qui occupent le terrain, si vous voulez. Et donc, Borelli explique que les remèdes doivent modifier, en quelque sorte, les mouvements des fibres, les fibres qui remplacent les esprits animaux cartésiens. Donc, agir sur les fibres. Bon, je passe sur les vitalistes pour parler des homéopathes. Alors, les homéopathes, j'en ai déjà parlé. Au fond, ce sont les premiers qui osent contester le principe de la thérapeutique par les contraires. Et donc, pour adopter le principe de la similitude en faisant référence à Hippocrate qui en parle. Et comme... Alors, on s'est demandé pourquoi cette médecine homéopathique était apparue. Alors, il y a une explication qui est simple. D'abord, la prolifération des systèmes. Donc, au XVIIIe, l'imagination est reine, à la fois en pharmacologie, en physiologie. Mais aussi, il y a une raison très pragmatique, c'est que les remèdes étaient La pharmacie galénique, si vous voulez, est très peu l'art d'administrer les remèdes, en fait, de préparer les remèdes pour que l'administration soit possible, par exemple par voie orale, est très peu performante. Et les remèdes sont absolument dégoûtants, surtout qu'on arrive déjà à faire des extraits des plantes, par exemple, au XVIIIe siècle. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à administrer aux malades. Et en comparaison, Hahnemann, qui propose l'utilisation de remèdes dilués, donc il y a cette idée chez Hahnemann hein, qu'on peut utiliser la loi de la similitude à condition de diluer les remèdes. Évidemment, les remèdes dilués sont beaucoup mieux tolérés par le malade. Et donc, il suffit, alors je cite un historien qui explique, il suffit d'imaginer le goût épouvantable, parfois suffocant, le parfum suffocant, les effets indésirables de certaines médecines et de connaître leur problématique activité thérapeutique, parce que c'est ça aussi. C'est ragoûtant et c'est pas efficace. Enfin bon, je vais vite. Pour comprendre et approuver le choix d'Hahnemann en faveur des dilutions infinitésimales. Quitte à être inefficace, autant que ce soit sans saveur, sans odeur, sans nocivité. Bon, évidemment, c'est un peu sévère pour l'homéopathie, donc, mais ça explique le succès aussi de l'homéopathie. Bon, sinon, en conclusion du XVIIIe siècle, à part quelques avancées, il faut quand même voir que le bilan thérapeutique est extrêmement modeste. Il y a un fait qui est tout à fait remarquable à la fin du XVIIIe, c'est l'apparition des vaccins, par contre. Donc il y a quelques avancées comme ça. Et d'ailleurs, dans une logique homéopathique, en fait, quelque part. Alors on arrive donc au nouveau contexte du XIXe siècle. Donc là, je vais être plus rapide parce qu'on est dans quelque chose qui est plus familier, si vous voulez. En gros, le fait nouveau du XIXe siècle, c'est la chimie. L'essor de la chimie du médicament, on peut analyser, extraire, purifier, on peut rectifier, faire des hémisynthèses, on peut inventer de nouvelles drogues, faire des synthèses. Alors toutes ces étapes, ça font partie de l'histoire de la chimie, donc on ne peut pas les développer ici, mais en gros, la chimie augmente le champ des possibles, si vous voulez. Et on peut... évidemment, le fait nouveau, c'est l'invention. On peut inventer des remèdes. On n'est plus soumis à la cueillette, si vous voulez, des plantes médicinales ou aux remèdes chimiques, aux remèdes des alchimistes qui sont quand même limités parce que les alchimistes, au fond, font des mélanges. Hein. Ils extraient, font des mélanges. Ils n'inventent pas, au fond, de nouvelles molécules. Donc là, il y a un champ des possibles. Et ce champ des possibles... Au fur et à mesure, au fond, que ces molécules vont être produites, eh bien, on va... Le laboratoire de physiologie, qui est le laboratoire, important au XIXe siècle, va expérimenter, va tester ces nouveaux remèdes. Et là, il y a quelques grands noms, évidemment. Là. Alors, j'ai mis que les Français, François Magendie, Claude Bernard. Il faut... Rappelez que ça n'a rien d'évident au XIXe siècle de faire de la physiologie expérimentale ou de faire de la pharmacologie expérimentale. Parce qu'il y a une médecine anatomopathologique qui est puissante et qui n'est pas expérimentaliste. Donc là, on est dans des débats qui concernent l'histoire de la médecine au XIXe siècle. Donc François Magendie est un militant et Claude Bernard est un militant. L'introduction à la médecine expérimentale, ça n'a pas ce caractère d'évidence que la médecine doit être expérimentale, que ça l'a aujourd'hui. Alors, évidemment, je vous cite juste ce qui correspond à ce qu'on appelait la révolution médicale de Magendie, la révolution pharmacologique. Parmi les causes, dit Magendie, qui ont retardé les progrès de la matière médicale, il faut compter l'impossibilité où on était d'isoler par l'analyse chimique les différents éléments qui composent les médicaments. Mais quand bien même on aurait pu, comme aujourd'hui, faire cette analyse, la croyance où l'on était, où quelques personnes sont encore, en fait, il aurait pu dire où beaucoup de personnes sont encore au début du 19e, la croyance où l'on était que les médicaments agissent tout autrement sur l'homme que sur les animaux, aurait empêché de reconnaître les propriétés de chacun de leurs principes. Rien n'est plus faux cependant que cette croyance. 20 ans d'expérience de tout genre, soit dans mon laboratoire, soit au lit du malade, me permettent d'affirmer que la manière d'agir des médicaments et des poisons est la même sur l'homme et les animaux. Et c'est ça, ce verrou que fait sauter, en quelque sorte Magendie, on peut transposer des animaux à l'homme l'action des médicaments. Alors, évidemment, si vous considérez la révolution chimique du 19e siècle, et si vous considérez cette révolution pharmacologique, vous avez l'explication historique de la situation où on est aujourd'hui, enfin, pratiquement, vous avez l'émergence de la pharmacologie. Vous avez un programme de recherche, en fait, au 19e siècle, qui va se mettre en place, mais cette fois-ci de manière collective, en France, en Allemagne, sur le médicament. Donc l'idée d'une pharmacologie, d'une nouvelle science, le terme de pharmacologie est attesté au début du 19e. Mais on n'a pas, avant on parlait de matière médicale, on analysait la matière médicale, c'est-à-dire la matière première pour les médicaments. Là, on passe à la pharmacologie, qui devra étudier les relations dose-effet, la localisation des sites d'action, la pharmacocinétique, c'est-à-dire le devenir du médicament dans l'organisme, en gros, et puis les relations structure-activité, c'est-à-dire les relations entre les structures chimiques et l'activité pharmacologique, de manière systématique. Ça, ce sont les écoles de pharmacologie au XIXe siècle, allemandes et françaises, qui vont développer donc ce programme. Et on est, alors je passe, il y a également un nouveau contexte biologique qui est essentiellement, avec deux faits importants pour l'histoire de la pharmacologie au 19e, la révolution microbiologique, donc ça c'est Pasteur, donc là on va la notion de remède spécifique qui était prônée par Paracels, on est très loin de Paracels là, mais va évidemment du fait de l'émergence de la microbiologie va être en faveur, si vous voulez, va revenir en faveur. Et puis la révolution physiologique, mais ça on a déjà parlé de Claude Bernard, la révolution physiologique notamment, Claude Bernard met en évidence que la vie nécessite le maintien de la fixité du milieu intérieur grâce à des mécanismes de régulation qui sont nerveux et hormonaux. Bon, pour aller vite, alors, il n'est pas l'auteur exactement du concept d'hormone, mais en gros c'est l'idée. Et donc, la perspective, comme, si vous voulez, ces mécanismes de régulation, tous les organes, si vous voulez, reçoivent une double innervation, sympathique, parasympathique, c'est à la suite, au fond, de ce concept bernardien que l'école de physiologie de Cambridge, donc là on est à la fin du 19e siècle, va systématiser l'anatomie et la physiologie du système nerveux autonome. Et donc les perspectives pharmacologiques à ce moment-là vont être immenses puisque on va pouvoir imaginer d'intervenir chimiquement, d'intervenir au niveau de chaque organe finalement innervé par ce système nerveux autonome. Vous voyez, donc l'anatomie en quelque sorte, la physiologie vient au secours, si vous voulez, de la pharmacologie et multiplie encore, augmente encore le champ des possibles. Il y a d'autant plus que on se questionne à la fin du 19e, finalement, est-ce que les nerfs agissent sur les organes par le biais de substances chimiques, c'est la neurotransmission chimique, ou par le biais d'influences électriques. Alors il y a une longue histoire de la neurotransmission jusqu'aux années 70 qui va finalement valider le principe chimique, déjà au 19e siècle, un physiologiste, qui est le physiologiste du Bois-Raymond, avait formulé déjà ces deux hypothèses. Et évidemment, l'hypothèse chimique va renforcer, en quelque sorte, la pharmacologie de manière considérable, puisque on va, vous avez là, par exemple, les commencements historiques de l'hypothèse chimique, on va isoler les premières substances sympathomimétiques, comme l'adrénaline. À partir de là, on va suggérer la notion de récepteur. Et les perspectives pharmacologiques ouvertes par l'hypothèse chimique vont être énormes, surtout la pharmacologie va se développer entre les deux guerres, puisque ayant identifié chimiquement les neurotransmetteurs, donc l'acétylcholine, la noradrénaline, on va pouvoir fabriquer donc des agonistes et des antagonistes et développer ce qu'on va appeler la pharmacologie du système nerveux autonome avec une multitude de substances qui vont soit agoniser, soit antagoniser les effets de ces substances. Donc les substances sympathomimétiques et parasympathomimétiques, sympatholytiques et parasympathomimétiques, et comme ces substances agissent sur chaque, comme la neurotransmission, le système nerveux autonome innerve tous les organes, on va pouvoir, l'industrie chimique, si vous voulez, va pouvoir fabriquer donc des analogues, et c'est ce qui va, des analogues ou des antagonistes. Donc les chimistes savent faire ça hein, au milieu du 19, au, entre les deux guerres, et c'est ce qui va doper considérablement l'histoire de la pharmacologie, enfin la pharmacologie à partir de l'entre-deux-guerres. Donc on, alors, on passe donc à la dernière étape, qui est l'étape moléculaire. Donc on va arriver dans les années 70, ça c'est un schéma qui date des années 70, on va arriver à en quelque sorte, l'analyse au niveau moléculaire, une vision relativement complexe, disons, de la synapse. On va avoir une vision relativement complète, enfin, assez incomplète, là, c'est un schéma des années 70, mais en tout cas suffisant pour utiliser ce modèle de la synapse chimique pour expliquer l'action des nouvelles drogues, alors des sympathomimétiques, des parasympathomimétiques, lytiques, etc. Donc ça, j'en ai déjà parlé, mais également des nouvelles drogues qui apparaissent, par exemple, au niveau central. Donc on va, la théorie chimique va permettre l'interprétation au niveau moléculaire de l'action de ces nouvelles drogues, ce que la théorie électrique, par exemple, ne pouvait pas faire. Donc, les perspectives d'explication du mode d'action des médicaments deviennent immenses. Et à partir de là, on a affaire à une espèce de mouvement inexorable, si vous voulez, qui amène la situation d'aujourd'hui, où finalement l'élément central de la théorie du mode d'action des médicaments aujourd'hui, c'est le récepteur. Alors, le récepteur, ou comme on dit maintenant, la cible. Donc, la théorie des récepteurs, la notion de récepteur, donc, elle est née de l'histoire de la théorie de la neurotransmission chimique, donc c'est l'anglais hein, qui va postuler l'existence de ces récepteurs pour expliquer l'action donc, de l'adrénaline au départ. Donc c'est une entité théorique. Et à partir de cette entité théorique, entre 1905 et l'isolement par changeux du fameux récepteur de l'acétylcholine, il y a toute une période où la pharmacologie va se développer. En fait, tous les principes de la pharmacologie qui sont enseignés en première année de pharmacie, en médecine, etc., ont été forgés à cette époque, entre 1905 en gros et 1970. Ce qu'on appelle la théorie de l'occupation des récepteurs. Donc les récepteurs, les médicaments agissent en se fixant sur des récepteurs. Alors à partir de là, on peut bien sûr ça a mené à des développements théoriques considérables. Alors la théorie des récepteurs, on peut considérer que la théorie des cibles, qui apparaît dans les années 80, c'est une sorte de prolongement de cette théorie des récepteurs. Alors vous avez, par exemple là, les quatre types de récepteurs protéiques qu'on voit donc, dans tous les manuels. Mais très au-delà de ces récepteurs protéiques, la notion de cible va se généraliser. Là, ça, c'est quelque chose qui date de 2008, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les récepteurs, il n'y a pas que les récepteurs membranaires, il n'y a pas que les cibles membranaires. Donc, tous les médicaments possèdent leur cible. Et actuellement, les pharmacologues ne jurent que par cette notion de cible, bien, qui représente en quelque sorte la dernière étape. Alors, vous voyez que du chamanisme à partir du chamanisme jusqu'à la théorie des cibles, il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Mais au total, je conclurai là-dessus, l'idée que je voulais faire passer, c'est que à chaque... Mais ça, c'est une idée d'historien, ce n'est pas une idée de pharmacologue, on va me dire. J'entends les objections déjà, mais au fond, ce qui est la leçon, disons, en tant qu'historien, qu'on peut en tirer, c'est que chaque culture crée, au cours du temps, ses représentations de la vie, de la santé, de la maladie, et qui génèrent des théories, donc logiquement, qui génèrent des théories cohérentes de l'action des médicaments. Alors on a vu, on a parlé de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, de la période contemporaine, et c'est un peu la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que, de ce point de vue, il serait faux de dire, d'un point de vue historique, que la pharmacologie, alors là je vais évidemment choquer, mais que la pharmacologie d'aujourd'hui, elle est plus rationnelle que celle du chaman, finalement. Parce que le chaman, l'action du médicament, elle s'inscrit dans une logique aussi pour le chaman. Simplement, ce n'est pas notre logique. Et puis, il y a une différence fondamentale entre la médecine du chaman et la médecine d'aujourd'hui, c'est évidemment le critère de l'efficacité. Donc ça, on peut en discuter aussi. Mais du point de vue de la rationalité, non pas forcément du point de vue de l'efficacité, mais du point de vue de la rationalité, le chaman, il est en quelque sorte, moi je suis un peu provocateur, mais à égalité, si vous voulez, avec le pharmacologue aujourd'hui. Donc, quand on fait de l'histoire des sciences, il faut recontextualiser chaque théorie, au fond, chaque élément théorique, sans porter de jugement rétrospectif. C'est un peu ça l'idée. Donc, je ne veux pas justifier, évidemment, la thérapeutique chamanique, mais enfin, d'un point de vue théorique, elle a sa raison d'être. Et ce sont ces raisons, au fond, qu'on essaye d'exhumer quand on fait l'histoire des sciences. Voilà, donc je vous remercie.
Je coordonne, oui. Je passe le micro. Des questions ?
Non, je passe le micro.
Oui, que vous non, 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 je ne peux pas faire de commentaires. Non, non,
non, non, c'est Patricia.
Pour lancer la discussion. J'ai remarqué, je ne sais pas si vous pensez que ça a une signification au regard des travaux que vous avez menés, mais dans le Code de la santé publique, le mot remède n'existe pas. Sauf à un endroit, c'est l'interdiction des remèdes secrets. C'est le seul endroit où on parle de remède dans le Code de la santé publique.
Oui, alors, remède, ça a une connotation beaucoup plus générale que médicament. Tous les médicaments, enfin, tous les médicaments sont des remèdes, mais tous les remèdes ne sont pas des médicaments. Donc, j'ai voulu, j'aurais pu effectivement une histoire écrire. D'ailleurs, dans mon livre, je parle des médicaments, je ne parle pas du remède. Donc, une histoire des théories du médicament, ça aurait été effectivement plus judicieux, parce que le remède. Il y a des remèdes non médicamenteux, effectivement. Alors, ça nous amène à la psychothérapie. La psychanalyse, c'est un remède. Ça n'a rien à voir avec le médicament. Donc, voilà. Effectivement, donc, l'enquête un petit peu lexicographique que j'ai fait sur le mot remède, le mot médicament, en fait, les mots deviennent synonymes dans l'usage courant à partir de l'époque moderne. Hein. Donc on emploie indifféremment remède et médicament, ce qui est un tort, à mon avis. C'est pas... Donc le remède peut être effectivement quelque chose de secret. Le médicament, il y a moins cette connotation de secret dans le médicament, certainement. Je ne sais pas si j'ai répondu. Enfin, moi, je fais une distinction entre le remède et le médicament, certainement.
Pardon, oui, l'homéopathie, vous avez un peu éclairé notre lanterne. On a compris que c'était tellement difficile à ingurgiter qu'il a fallu faire des dilutions.
C'est une théorie, oui.
Oui, c'est une théorie, mais bon, c'est une vision très rationaliste des choses. Donc, c'était pour faire passer la pilule, finalement.
Enfin, excusez-moi, le jeu de mots. Non, mais c'est ça. Il y a quelque chose comme ça.
Finalement.
Alors, il faut voir que, initialement, aussi, l'homéopathie, c'est une théorie vitaliste. C'est-à-dire, c'est pas une théorie neutre. L'homéopathie d'Hahnemann, je veux parler de l'homéopathie d'aujourd'hui, bon, mais Ça, l'homéopathie d'aujourd'hui évacue cet aspect vitaliste. C'est-à-dire qu'au fond, et qu'on voit dans la dynamisation, dans le mélange des remèdes, le mélange n'a pas simplement pour fonction de mélanger, quoi, si vous voulez. Le mélange, que Kahneman appelle la dynamisation, est fait pour exalter les propriétés vitales du remède. Donc, c'est pas. Il y a une charge, je veux dire, il y a une charge théorique dans l'homéopathie qui est gommée souvent aujourd'hui. On dit c'est simplement le principe des similitudes, une grande alternative, grande invention par rapport au principe des contraires, alors que le principe des similitudes est aussi ancien que le principe des contraires. Simplement, Hippocrate dit il faut pas trop l'utiliser. Bon, voilà, ça complique parce que il y a des raisons philosophiques à ça, de considérer de manière logique. Toutes les ça c'est typiquement présocratique, si vous voulez. Donc c'est une approche très rationnelle de tous les problèmes, soit scientifiques, naturels, disons, qui se posent dans la nature. Donc on envisage toutes les possibilités dès l'époque et on s'arrête sur le principe des contraires. Et donc c'est ce principe des similitudes qui a été exhumé par les homéopathes au XVIIIe siècle. Mais dans le nouveau contexte du XVIIIe, qui est le contexte vitaliste, dans le contexte de l'idée de proposer une biologie qui serait alternative à la biologie physicaliste, cartésienne, qui réduit, au fond, le vivant à une machine. Donc il y a un contexte philosophique aussi de l'homéopathie qui est tout à fait oublié des homéopathes aujourd'hui. Donc c'est une théorie vitaliste. C'est pas neutre.
Je pensais que Hahnemann était un des premiers à avoir développé une expérimentation, puisqu'il a expérimenté les médicaments sur sa famille, sur ses enfants, sur son entourage. Donc il y avait le développement d'une expérimentation. Et je pensais que cette charge, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, au moment de la dynamisation, c'était apparu plus tard. Et c'est toujours en vigueur chez certains, notamment les tenants des théories de Rudolf Steiner avec l'anthroposophie et le laboratoire Velleda, par exemple, qui pratiquent toujours en précisant que la dynamisation, elle se fait dans un berceau par une personne donnée, etc., et que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Ça ne se transmet pas comme ça à n'importe qui. Ça existe toujours. Alors que l'homéopathie d'Hahnemann, enfin, je n'ai pas étudié à fond la question, mais je pensais que c'était vraiment une démarche plus scientifique, une expérimentation, et on était au début justement de cette expérimentation.
Alors c'est vrai qu'il y a, il a expérimenté, enfin, il a expérimenté, il explique que on est. Qu'il a expérimenté ces remèdes, bon, il faut aussi se replacer dans le contexte où c'est la théorie dominante en science, enfin, en épistémologie, c'est l'empirisme au XVIIIe. Et donc, en réaction au rationalisme, au fond, du XVIIe, hein, l'esprit de système, etc., donc l'empirisme. Donc, les théoriciens vont avoir fréquemment fait référence à l'expérience, vont faire fréquemment référence à l'expérience, sans qu'on puisse vérifier véritablement quelles expériences ils ont faites, s'ils les ont faites vraiment, etc. Et donc, c'est pareil pour les iatrophysiciens, les iatrochimistes, tout le monde dit faire des expériences. Et effectivement, au XVIIIe, il y a des expériences qui ont été faites, par exemple sur l'opium, chez les animaux même. Hein, donc, Magendie n'a pas inventé l'expérimentation animale. Mais simplement, les critères, si vous voulez, de l'expérimentation au XVIIIe siècle ne sont pas du tout aussi rigoureux qu'ils vont le devenir à partir du XIXe. Donc on a affaire à une épistémologie qui est très molle. Et donc, j'ai expérimenté ceci, ça peut vouloir dire j'ai constaté juste un cas où les choses sont faites. Et ça devient j'ai expérimenté. Donc, dans le cas précis d'Hahnemann, je ne vais pas m'avancer, mais je veux dire, la référence à l'expérience, c'est une habitude philosophique, c'est une habitude, quelquefois, à cette époque, plus qu'une pratique réelle. C'est un peu. Je ne vais pas dire. Je ne vais pas comparer ça à l'époque d'Avicenne, mais Avicenne, par exemple, explique. Il faut expérimenter aussi les médicaments. Il donne toute une série de critères. Mais on n'empêche qu'on n'est pas du tout sûr qu'il ait réalisé une seule de ces expériences. C'est une référence philosophique, si vous voulez. Alors simplement, à partir de Magendie, à partir du 19e, en gros, le rêve, en quelque sorte, expérimental, devient réalité. Et là, effectivement, on a des comptes rendus, on a affaire à une épistémologie, disons, plus rigoureuse. Voilà. C'est une espèce d'expérimentalisme au 19e, au 18e, qui est quand même un expérimentalisme mou. C'est plutôt l'observation, en fait, qui règne au 18e siècle dans le domaine naturel que l'expérimentation véritable.
C'est à propos de l'efficacité des médicaments. On peut dire que ils ont des résultats avec l'allopathie et la chimie. Mais je veux dire, les résultats, par exemple, ils peuvent avoir un résultat, mais il peut y avoir des effets secondaires. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils ne mesurent pas leurs effets, quoi. Ils mesurent leurs effets, mais ça fait agir, mais pas. Ça agit des effets délétères, à la limite.
C'est lié à. C'est connu dès l'origine. Dans le mot médicament, en fait, qui, en grec pharmakon, c'est à la fois remède et poison. C'est-à-dire que c'est inhérent, si vous voulez, au médicament d'être aussi un poison. En fait, tout est question de dose, tout est question d'emploi. Et si vous voulez, l'argument de dire le médicament, c'est pas bon parce que ça peut empoisonner. Oui, mais il n'y a pas de médicament. Il n'existe pas de médicament qui ne soit pas aussi, quelque part, un poison. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait partie de la définition même du médicament dès l'origine.
Remarque aussi, je dirais, c'est intéressant de voir la vision de l'historien. Je ne sais pas si à l'origine vous êtes pharmacien, biologiste, vous êtes
pharmacien,
oui. C'est marrant, mais on a quand même le sentiment que c'est la vision de l'historien qui a pris très largement le dessus. Dans le sens où l'analyse que vous faites, bon, c'est tout à fait intéressant. C'est vrai que même ce rapport, on prend le modèle du chamanisme pour vous présenter des situations dans un contexte donné. Oui, c'est pas plus fou que ce qui est fait aujourd'hui. Pourquoi pas, je veux dire. Mais en tant que biologiste, en tant que biologiste, moi j'aime bien voir, comprendre à la lumière de ce que l'on connaît aujourd'hui. Et par exemple, dans les préparations du chaman, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a, parce que je pense qu'il y a une part complètement irrationnelle, non pharmacologique, et très certainement, je le crois volontiers aussi, une part de molécules actives, etc. Il y a tout cet aspect. Vous présentez ça avec une vision d'historien très, très neutre, je serais tenté de dire, dans un contextualisé, etc. Bon, nous, on trépigne un peu. Enfin, en tout cas, c'est mon cas en tant que biologiste. Bon, voilà, c'est bien tout ça, mais bon, qu'est-ce que ça voulait dire? Voilà.
Bien sûr, mais c'est pas le même métier de ce que je sais, enfin ce que j'ai appris en faisant ce travail, c'est que il y a l'ethnopharmacologie, l'ethnopharmacie. Donc ce travail d'analyse des remèdes anciens, enfin d'une façon générale, les pharmacopées antiques, les pharmacopées médiévales, les pharmacopées arabes, peut pas parler de pharmacopée au sens de traces écrites dans le cas du chamanisme, mais disons les pharmacopées traditionnelles, on va dire, sont aussi l'objet d'études. Et donc, on essaie. Bon, vous savez que bien qu'on essaye de le problème, c'est de trouver de la nouveauté. Alors, on cherche partout où c'est possible. Et donc, on fait ce travail d'analyse moléculaire, on va dire, de ces substances. Alors, ce que je voulais dire simplement, c'est que le point de vue de l'historien, il ne peut pas être. En histoire, on cherche à recontextualiser. Donc, on est un peu comme, si vous voulez, si vous faites l'histoire en histoire des sciences, si vous faites, bon, dans l'histoire générale, c'est la même chose. Si vous faites l'histoire de l'Empire napoléonien, bon, vous faites l'histoire de l'Empire napoléonien, indépendamment de vos opinions politiques et de vos opinions de l'Empire en général, sur le sens du. Donc, sinon, vous ne faites pas une histoire objective. Alors, il n'y a pas d'histoire objective, d'accord, mais.
Mais une molécule qui agit sur un récepteur, c'est pas du subjectif, je veux dire.
Non, mais oui, tout à fait. C'est pas.
Je crois aussi que chaque époque, chaque culture a ses critères de rationalité, de cohérence des domaines de connaissances. Et peut-être que si dans 2000 ans, on a des successeurs, nos vérités scientifiques leur paraîtront très archaïques.
Complètement. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de dire que tout se vaut. C'est-à-dire que c'est pas l'idée. Tout ne se vaut pas. Mais tout s'explique dans un certain contexte. Donc, le travail de l'historien, c'est en gros d'essayer d'élucider ce contexte et de comprendre pourquoi le chamanisme, pourquoi la médecine égyptienne. Bon, est-ce que c'est. Il n'y a pas de. Donc, c'est dans cette perspective, si vous voulez, qu'on peut voir aussi l'histoire du médicament. Donc, indépendamment des questions d'efficacité, des questions même de réalisme. Parce qu'effectivement, on peut aussi discuter de la réalité des modèles scientifiques, etc. Donc, l'idée, je répète, c'est pas de dire que tout se vaut, c'est que tout peut se remettre en contexte. Tout à fait. Il y a un sens, tout à fait, à l'utilisation de l'eau bénite. Vous voyez, ça veut pas dire que l'eau bénite vaut du point de vue de l'efficacité, du point de vue du remède, le reste. Voilà. Mais disons que si on en restait aux critères d'efficacité, il n'y aurait pas d'histoire du médicament possible. Il n'y aurait pas d'histoire du remède possible. Ah oui, mais ça, c'est votre travail de dire ce qui est valable là-dedans et ce qui n'est pas valable. Ce n'est pas le mien, moi. Vous voyez ? Ce n'est pas le même métier.
Juste
pour. Mais on peut avoir des idées personnelles aussi. Il n'empêche que c'est des idées personnelles, bien sûr. Bon, enfin. Oui, pardon.
Juste pour plaisanter un peu, on parle du chamanisme dans l'histoire, enfin des chamans dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est un phénomène de mode qui revient. Je serais curieux de savoir si on a étudié la longévité de ces gens, de ces chamans, avec tout ce qu'ils prennent pour les trans, pour etc. Parce qu'on connaît, nous, maintenant, le contenu de certains produits et je me dis que ça doit quand même les atteindre.
Oui, certainement. En plus, il faut bien voir que ça commence dès l'enfance, hein. C'est-à-dire que le chaman, il est formé de père en fils, et il forme son fils. Et donc, effectivement, c'est pas facile, chaman. Ah, ça, je peux pas vous répondre. Bon, l'espérance de vie, hein, de toute façon. Alors, le chamanisme d'aujourd'hui. Hein, bon, il faut se référer aux études. Bon, si dit.
Il m'a beaucoup intéressé, mais que vous n'avez pas commenté. Non, mais c'est pas la peine. Sur les Arabes, qui Et finalement, quand j'ai lu ça, c'est un peu comme quand on lit Claude Bernard. Mmh. Je veux dire, Claude Bernard, on a beaucoup à apprendre dans le contexte de notre travail d'aujourd'hui, j'entends. Et ce qui était énoncé dans cette diapo, c'était des choses qui semblaient extrêmement rationnelles, contextualisées encore, je l'entends. Mais j'ai trouvé ça intéressant par rapport à tout ce qui était avant. Là, je dis, tiens, voilà, ça me parle.
Oui. Bien sûr.
Voilà, bon, juste ça,
bien sûr. Mais c'est un petit peu le... alors, les critères de l'expérimentation sur la Avicenne, c'est un titre de moi. Hein. C'est pas écrit chez Avicenne les critères de l'expérimentation. Mais il explique effectivement un certain nombre de critères. Ça ressemble à de la pharmacologie moderne, mais ça n'en est pas. C'est-à-dire que, en fait, Avicenne, il est galéniste. C'est-à-dire que tout ça n'a pour but que de démontrer tout ça se situe, si vous voulez, dans un cadre qui est strictement galéniste, la théorie des humeurs, et c'est pas du tout le contexte bernardien où on est dans la révolution scientifique. Donc ça ressemble dans la formulation effectivement à des critères rigoureux. Mais en réalité, on n'est pas du tout sûr et on doute qu'il ait réalisé la moindre expérience. Donc là, vous avez un exemple de... voyez, quand vous faites l'histoire des sciences, si vous lisez ça, vous pouvez prendre un point de vue rétrospectif et dire, ah ben voilà, Avicenne, c'est un précurseur de la méthode expérimentale. Sauf que c'est faux, parce qu'on est dans un contexte philosophique, médical, complètement différent, premièrement, et deuxièmement, on n'est pas du tout sûr qu'il ait réalisé la moindre expérience. Donc, en réalité, ce texte, c'est une tradition galénique, et dans Galien, vous avez ces principes déjà, mais qui ne sont pas rassemblés comme ça. Voyez ? Et donc, là, la tâche de l'historien, c'est de dire, là, vous voyez, vous avez un faux départ. Et le vrai départ, qui fait référence au fond à la science d'aujourd'hui, c'est certainement Magendie ou Claude Bernard. Il n'est pas à rechercher du côté d'Avicenne. Vous voyez ? Donc,
Thank you.